Europe 1.
Il est 13h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
13h, 14h, Thomas Schnell.
Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité de ce jeudi 18 avril. Je veux que ces drames cessent. Les mots de Gabriel Attal à Viry-Châtillon dans l'Essonne ce matin. Il a dévoilé son dispositif pour faire face à la violence des jeunes. Le détail dès le début du journal. Qu'est-ce qu'un salaire décent? Le fabricant de pneus Michelin augmente tous ses salariés. Plus aucun ne sera rémunéré au SMIC. Marseille et Lille jouent leur avenir en Europe ce soir face au Benfica Lisbonne et Aston Villa. C'est du football bien sûr, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous. 13h02, la tendance météo, Mickaël Poteau.
Et bien toujours cette perturbation, pluie, grêle, orage et vent descendus sur le centre et le sud du pays. Seule la façade atlantique et le nord auront un temps plus clément et des températures similaires à hier. Je développe tout ça juste après votre journal, Thomas.
Europe 1.
Pour son centième jour à Matignon, le Premier ministre était à Viry-Châtillon dans l'Essonne.
Où la semaine dernière, un collégien, Chemseddine, a été mortellement passé à tabac. Gabriel Attal a insisté sur le déchaînement de violence au sein de la jeunesse actuelle. Arthur Delaborde, vous êtes sur place pour Europe 1. Le locataire de Matignon appelle à un vrai sursaut d'autorité.
Oui, c'est une mobilisation générale de la nation pour renouer avec sa jeunesse que Gabriel Attal appelle de ses voeux en allant jusqu'à déplorer l'addiction d'une partie des adolescents à la violence. Le Premier ministre lance un cycle de concertation avec tous les acteurs, maires, associations, parents, professeurs, mais aussi avec tous les groupes politiques, y compris l'opposition.
Il faut un sursaut d'autorité, nous sommes prêts à le donner. Je donne 8 semaines, pas une de plus, à ce travail collectif pour aboutir. La réponse que je propose s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, c'est la question des parents. Ensuite, il nous faut une réponse directe, rapide et adaptée à chaque manquement. C'est la question des peines, de la justice des mineurs. Enfin, l'accompagnement de nos jeunes est aussi au cœur de ce que nous voulons faire.
Au-delà de la méthode, le Premier ministre avance des pistes concrètes. Il plaide pour que les élèves perturbateurs soient sanctionnés dans l'obtention de leur diplôme. Il se dit prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité devant la justice. Sur le sujet de la laïcité, qui est un de ses marqueurs politiques, Gabriel Attal dénonce l'entrisme d'idéologie contraire à la République, évoque notamment, je cite, le racisme islamiste qui va croissant et contre lequel nous devons lutter sans relâche, en particulier à l'école.
Aujourd'hui, soyons francs, de plus en plus souvent, les troubles ou les violences dont nous entendons parler à l'école ont un sous-texte identitaire ou religieux. Je vous le dis, il n'y aura pas de guerre des religions à l'école. Car l'école, la seule règle qui vaut, c'est la laïcité.
Enfin, parmi les autres mesures souhaitées par Gabriel Attal, la possibilité qu'un jeune puisse être envoyé en internat loin de son quartier avant qu'il ne tombe vraiment dans la délinquance. Le Premier ministre se rendra justement lundi à Nice pour visiter le premier de ces internats.
Merci Arthur Delaborde en direct. Alors sur ces concertations contre la violence des jeunes, les manquements parentaux, le contrôle des écrans, l'entrisme religieux et la protection des écoles, nous y reviendrons juste après le journal avec nos chroniqueurs politique Jean-Claude Dacier, Olivier Dartigolle. Et avec vous, vous nous appelez également au 01 80 20 39 21. À la une ce matin également, c'est le commentaire du président du Sénat. Gabriel Attal n'avait pas encore fait ses annonces que Gérard Larcher sanctionnait déjà l'action de Matignon sur Europe 1. Il juge sévèrement le bilan de l'exécutif.
Être à Viry-Châtillon, c'est en fond symboliser l'échec de la politique du président de la République depuis 7 ans dans notre société. Échec. Une société qui est devenue plus violente. Une société qui voit se dégrader son école. Une société qui voit en quelque sorte le sentiment d'impunité monter. Nous avons besoin d'actes. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes.
À Marseille, cette fois, une mère et sa fille sont en garde à vue depuis hier après avoir frappé en début de semaine une directrice d'école du 11e arrondissement. Gifle, coup de pied parce qu'une élève n'a pas participé à une sortie scolaire faute d'une autorisation signée par les parents. L'autre illustration de cette violence, c'est la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune homme a été roué de coups en début de semaine sur un parking. Deux mineurs de 14 et 15 ans sont actuellement en garde à vue. Une marche blanche sera organisée demain matin.
Contre la violence des mineurs, l'exécutif veut une grande consultation nationale.
À l'image de ce qui a été fait avec le Grenelle des violences conjugales, sans attendre le ministre de l'Intérieur qui vient d'arriver en Guadeloupe, prononce un couvre-feu pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre contre la flambée de violence de ces dernières semaines. Pendant 2 mois, il leur sera interdit de sortir entre 20h et 5h du matin, Mayalène Trémollet.
C'est une initiative qui s'inscrit dans une série de mesures annoncées depuis la Guadeloupe par Gérald Darmanin pour lutter contre la délinquance. Un couvre-feu présenté comme une des solutions trouvées par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre la propagation de la délinquance chez les plus jeunes.
L'État ne laissera pas faire une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus armée. J'ai demandé aux policiers et aux gendarmes en prévision, donc pendant tout le mois, des opérations place nette, comme on en fait un hexagone, de lutte contre les points de deal, contre la circulation des armes, le problème principal que connaît la Guadeloupe aujourd'hui.
Le ministre qui déclare vouloir harceler les délinquants pour que la peur change de camp. De son côté, le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, s'est félicité de cette mesure, saluant enfin du concret pour sa ville qu'il avait qualifiée de coupe-gorge, rappelant que des jeunes délinquants avaient brûlé 70 poubelles encore la semaine dernière. Selon les chiffres de la préfecture, l'archipel de la Guadeloupe compte 6 fois plus d'homicides et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. En mars dernier, une commerçante avait été tuée lors d'un braquage.
C'est une information qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. L'an dernier à Paris, 77% des viols recensés sur la voie publique ont été commis par des personnes de nationalité étrangère, selon les chiffres de la préfecture de police. Car, Jean-Baptiste Marty, sur 36 personnes mises en cause, 28 n'étaient pas françaises.
Parmi ces étrangers, 20 sont déjà connus de la police, dont 4 pour d'autres faits d'agression sexuelle. Des viols essentiellement commis par des hommes, pour la plupart toxicomanes, sans emploi et sans domicile fixe. Au total, 97 plaintes ont été déposées en 2023, rien que dans la capitale. Un chiffre constant depuis quelques années, mais inquiétant pour Grégory Joron du syndicat Unité SGTFO.
C'est quand même quasiment un tous les trois jours sur l'attaque parisienne et sur la voie publique. C'est un phénomène qu'on arrive en tout cas pas à éteindre.
Des viols pour la plupart commis dans les lieux touristiques comme au Champ de Mars, où l'intégralité des personnes interpellées dans le cadre de ces affaires sont en situation irrégulière.
C'est censé être des plages qui sont 0% délinquance, puisqu'on est en attente d'accueillir les millions de touristes pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant et à l'heure où on se parle, ce sont encore des endroits où malheureusement on concentre énormément de problématiques et potentiellement après une certaine heure de la nuit, oui, il y a encore malheureusement un risque à ce qu'une femme se promène seule pour rentrer de soirée ou même du travail.
Un fléau que tentent d'endiguer les autorités, notamment à travers le lancement des opérations Place Nette début avril dans les secteurs touristiques de la capitale.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
13h, 14h, Thomas Chenel.
13h09, quand un groupe coté montre l'exemple sur les salaires.
Ce sont des mots rares dans la bouche d'un grand patron. Le SMIC n'est pas un revenu décent. Le président de Michelin annonce que les rémunérations au sein du groupe de pneumatiques répondront à des critères de décence. On retrouve l'envoyé spécial européen à Clermont-Ferrand, Aurélien Fleureau. Quels sont les critères retenus, Aurélien ?
Eh bien Thomas, le point de départ, c'est permettre à chaque salarié de subvenir aux besoins essentiels de sa famille avec un salaire. Et ce n'était pas forcément le cas de la totalité des 132 000 employés de Michelin. Des cas particuliers ont été identifiés en France, mais aussi au Brésil, en Inde ou aux États-Unis. Le détail avec Florent Méné, président du groupe.
Alors on appelle ça le salaire décent. Ça, c'est quand on suit la nomenclature définie par les Nations Unies. La logique chez nous, c'est permettre à une famille de 4 membres sur un salaire d'avoir suffisamment pour aller au-delà de la nourriture, du logement, mais aussi avoir accès à du loisir, des vacances, du transport et de la culture.
Alors ce salaire décent va donc bien au-delà du salaire minimum et il pourra fortement varier selon les régions, comme le détaille Floriane Viala, directrice de la rémunération de Michelin.
Pour la France, on est autour de 39 000 euros de salaire annuel brut pour Paris, la région parisienne, ce qui représente un peu moins de 2 fois le SMIC. Et pour Clermont, sans surprise, on est un peu plus bas, on est autour de 25 600, ce qui est en gros 20% au-dessus du SMIC.
Donc ce sont les prix du logement qui expliquent en grande partie ces écarts. Michelin travaille sur ce sujet depuis bientôt 3 ans. Cette annonce devrait relancer le débat sur le salaire minimum.
Aurélien Fleureau à Clermont-Ferrand pour Europe 1. Inquiétude autour de Biogarant, le géant français des médicaments génériques est à vendre. Le groupe Servier veut vendre sa filiale aux 900 médicaments, dont l'amoxicilline. Le médicament.
Merci à vous. Ciao.
Le plus prescrit en France, c'est 8600 emplois en France. L'Union européenne confirme de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque contre Israël. Seront particulièrement visés les fabricants iraniens de missiles et de drones. De son côté, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban, où 2 combattants du Hezbollah, alliés de l'Iran et du Hamas, ont été tués. L'envoyé spécial européen s'est rendu justement en Haute-Galilée, la région la plus au nord d'Israël, sous les bombardements au quotidien. Si la plupart des villages ont été évacués, les agriculteurs, eux, restent pour travailler. Wilfried de Villers a rencontré un couple d'éleveurs de volailles. La ferme est à quelques encablures de la frontière. Le récit pour Europe 1.
Tous les matins, Ilana et Machia montent dans leur 4x4 et font la route à l'aube jusqu'à Margaliot. Une heure pour rejoindre leur moshave, leur village communautaire niché à flanc de colline. Téléphone à la main, Ilana me montre une photo.
Là, c'est le village. Et là-haut, sur la montagne, c'est le Liban, avec le Hezbollah qui nous domine. 3 ou 4 kilomètres avant le village, je suis saisie aux tripes. J'ai le cœur qui bat la chamade parce que j'ai la trouille.
Mais Machia, 70 ans, ne veut pas abandonner. Ses poules, c'est tout ce qui lui reste, dit-il, une lueur de fierté dans le regard. Alors il travaille, malgré les risques.
2 ou 3 fois par ramassage des œufs, les alarmes retentissent, je dois courir à l'abri à cause des bombardements. C'est la roulette russe, si ça nous tombe dessus, on est tous morts.
La ferme est si proche de la frontière que ce couple de juifs d'origine iranienne peut voir flotter dans le vent les drapeaux du Hezbollah. Les combattants du groupe terroriste les narguent même régulièrement.
Le Hezbollah sait que notre village est une communauté de juifs iraniens. Alors le jour de Shabbat, ils mettent souvent de la musique perse et ils nous crient de là-haut. Un jour, on vous prendra ces terres parce qu'elles nous appartiennent.
Il y a 2 semaines, une roquette est tombée à quelques mètres de leur maison. En Haute-Galilée, Wilfried de Villers, Europe 1.
3 diplomates français expulsés du Burkina Faso, déclarés persona non grata, accusés d'activités subversives. Ils ont 48 heures pour quitter le pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis un putsch militaire, les relations entre Paris et Ouagadougou se sont considérablement dégradées.
Assisterons-nous à de nouveaux exploits français dans le football européen ce soir?
Les Marseillais et les Lillois tenteront de se qualifier en demi-finale. Lille et Aston Villa bataillent en Ligue Europe Conférence à 18h45. À l'aller, les Lillois s'étaient inclinés 2-1, même score lors de la première manche entre Marseille et Lisbonne. En Ligue Europe, l'OM affronte donc le Benfica Lisbonne à 21h. Cyril de la Morinerie, les Marseillais ont des raisons d'y croire.
Oui, car les Marseillais pourront d'abord compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait trembler les filets au Portugal. Ensuite, le stade Vélodrome sera plein. On attend plus de 65 000 spectateurs et les supporters, eh bien, espèrent une soirée magique comme en 2018 face à Leipzig. Il y a 6 ans, au quart de finale de la Ligue Europa, Marseille, qui avait perdu à l'aller, s'était imposé 5-2 face au club allemand. Mais Marseille, qui reste sur 5 revers de suite, devra réaliser un très grand match face au Benfica, admet l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
On est conscient qu'on a 1 but de retard, qu'on joue contre le quart de finaliste de la Champions League la saison dernière, que Benfica est un grand club. À nous en faire que cette rencontre soit hors norme.
Et Lille, qui jouera aussi à domicile ce soir, devra réaliser un exploit. Aston Villa, 4e de Première Ligue, vient de battre Arsenal, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Les Lillois, privés de leur maître à jouer, Eden Zegrova, espèrent se qualifier pour la première demi-finale européenne de leur histoire.
Dans les autres résultats en Ligue des Champions hier, le Real Madrid élimine le tenant du titre. Victoire au tir au but contre Manchester City. La demi-finale des Espagnols, ce sera contre le Bayern Munich et eux ont éliminé Arsenal. C'était un 18 avril 1974, il y a 50 ans tout juste, l'auteur de Jean de Florette, de Manon des Sources, nous quittait. Marcel Pagnol, l'académicien, l'écrivain, le dramaturge, le cinéaste, s'éteignait à Paris, loin de sa Provence natale, de son Garlaban couronné de chèvres. 50 ans plus tard sur Europe 1, son descendant, Nicolas Pagnol, lui rend hommage.
C'est un exemple assez unique. Alors, on pourrait peut-être penser à Cocteau aussi, sans doute avec moins de succès au théâtre. C'est quelqu'un qui aimait avant toute chose créer des personnages, parler de sa région, et le mode d'expression lui importait peu. Avec bonheur, il a eu du talent dans tous les médias qu'il a pu utiliser. Marcel, c'est avant tout des thématiques qui sont non pas modernes, mais intemporelles. L'amitié, la fidélité, le respect, la concorde, l'amour de la nature et l'entraide. Je crois que ça fait du bien à tout le monde et c'est pour ça que, eh bien, il est toujours lu, il est toujours regardé, il est toujours autant aimé.
Et d'ailleurs, dans 2 ans, un musée Pagnol doit ouvrir à Allo, petite commune au pied du Garlaban où le jeune Marcel passait ses vacances racontées dans la gloire de mon père.